Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes dimanche soir, c'est l'heure du Grand Fauve. Ce soir, le rideau de fer. Let's go, Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur.
En 1946, à Fulton, dans le Missouri, Churchill inventait l'expression « rideau de fer ». Un an à peine après la fin de la guerre, le monde était de nouveau divisé en deux camps ennemis, l'Est et l'Ouest, le communisme et le capitalisme.
Le sport, combien de divisions ? Voilà une apostrophe qu'aurait pu prononcer Staline au début de la guerre froide. C'est en tout cas la question qui introduit le dernier numéro de la revue trimestrielle d'histoire intégralement consacrée au sport dans la guerre froide. Une étude passionnante avec des approches renouvelées sur cette période à la fois lointaine et récente. Un monde disparu où les sportifs des deux blocs allaient au stade comme on montait au front. En ce mois d'octobre 2020, donc, où l'Europe célèbre le 30e anniversaire de la réunification allemande, deux invités au micro d'Inter ce soir. Tout d'abord, il est historien du sport au XXe siècle, spécialiste, entre autres, du football. Paul Dietschy, bonsoir.
Bonsoir, Philippe.
Et bienvenue à vous. À vos côtés, un autre historien, spécialiste, lui, du sport en Union soviétique, Sylvain Dufraisse, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous aussi. Et puis, juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minanzio. Ce soir, Jean-Pierre François, « Je te survivrai 1989 », un footballeur au top 50. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. Au menu ce soir, le sportif, soldat malgré lui de la guerre froide.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, l'habitude est prise, hein, vous le savez, on débute avec la minute musculaire de Robert Reynaud, le sémillant professeur de gymnastique des 50s, le sport à la maison pour les auditeurs et les auditrices. Ce soir, le professeur Robert Reynaud vous propose de travailler vos abdominaux, c'est important les abdominaux. Vous aurez besoin d'un tapis pour poser votre séant. En avant, maestro.
Vous allez vous asseoir sur votre tapis et commencer la série abdominale par le mouvement du rameur en équilibre sur le bassin. Vous vous asseyez donc et vous penchez le buste en arrière, vous soulevez les jambes au ras du sol en avant, c'est bien. Et lorsque vous fléchissez les jambes, vous portez le buste en avant et vous allez toucher les genoux avec le front ou avec la poitrine. Toujours en équilibre sur le bassin. Ce n'est d'ailleurs pas une très grande difficulté, elle n'est qu'apparente. Vous étendez les jambes, vous penchez le buste en arrière, vous laissez les bras bien souples et vous continuez. Allez, fléchissez et vous étendez. Vous pliez les jambes et vous les étendez. Vous fléchissez encore en portant le buste en avant, vous tendez, c'est bien, vous pliez et vous tendez.
Je l'adore. Après la gymnastique en musique du professeur Reynaud, passons à la guerre froide du muscle. Voici l'histoire du dimanche soir. Quand débute réellement la guerre froide ? Les avis divergent. Dès l'été 45, diront certains, à la conférence de Potsdam, où les tensions surgissent quand il s'agit de savoir qui, de Staline ou de Truman, posera au centre de la photo. Ou plutôt, le 5 mars 1946, quand Winston Churchill prononce l'expression « rideau de fer » dans son illustre discours de Fulton dans le Missouri. Ou alors, en 1948, quand Staline décide d'imposer un blocus à la ville de Berlin coupée en deux. En tout cas, la guerre froide du muscle, elle, débute précisément le 19 juillet 1952 en Finlande, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été à Helsinki.
Les Jeux Olympiques, symbole de paix. On en avait bien besoin. Et c'était un autre symbole qu'après Londres en 1948, ce soit à Helsinki, la capitale de la Finlande, qu'auraient lieu les Jeux Olympiques de l'affrontement Est-Ouest. Au village olympique d'Helsinki, le portrait de Staline annonçait la couleur. Pour la première fois depuis 1912, les Russes étaient là. Ils allaient se mesurer aux Américains. Et les Jeux commencèrent par un scandale politique. Une jeune femme en blanc était venue hurler au micro « Paix, paix !» Elle était allemande. Elle fut vite escamotée. Les Jeux avaient mal commencé, avec ce mélange de politique et de sport. Un triste mélange.
Triste mélange. Paul Dicci, vous êtes historien, vous maîtrisez parfaitement l'histoire du sport au XXe siècle. On vient d'entendre, Paul, qu'en 1952, donc l'Union soviétique participe pour la première fois aux Jeux Olympiques à Helsinki. Première question, Paul, pourquoi Staline décide-t-il à ce moment-là de participer aux Jeux Olympiques alors que jusqu'à présent, les communistes considéraient quand même ces Olympiades comme une compétition, on va dire, capitaliste et bourgeoise?
Oui, le régime bolchevique avait essayé même de subvertir l'internationalisme sportif en créant de contre-jeux, les Spartakiades en 1928, et puis avait refusé toutes les invitations, que ce soit du CIO ou de la FIFA, pour entrer dans ce sport international, mais avec finalement des résultats très moyens, puisque les seules relations que les athlètes soviétiques avaient, c'était avec notamment des fédérations proches du Parti communiste, comme la FSGT à partir de 34 en France. Il y avait aussi la crainte de voir le niveau des athlètes soviétiques finalement baisser, parce qu'ils n'étaient pas confrontés à cette concurrence. Et puis surtout, à partir de 1945, évidemment, l'URSS entre à l'ONU, donc participe à ces grandes organisations internationales. Il y a certainement la volonté d'affronter le camp capitaliste sur le terrain du sport et de porter haut le drapeau communiste lors de ces Jeux.
Sylvain Dufraisse, je rappelle, vous êtes historien vous aussi, spécialiste de l'histoire du sport en Union soviétique. Alors Sylvain, il faut rappeler que finalement, dès 1917, les soviétiques ont un autre regard sur le sport. Il n'est pas tant question de battre des records ou de gagner une compétition, il est plutôt question de mettre en place une sorte d'hygiène sociale pour le corps ouvrier. Comment est-ce qu'on justifie alors en 1945 que soudain on participe à ces compétitions? Et d'ailleurs, on pourrait même penser que la guerre froide du sport a commencé avant la Seconde Guerre mondiale, quelque part.
En effet, les bolcheviques et une partie des dirigeants bolcheviques ont une conception du sport et des activités physiques qui est très éloignée de la conception olympique. Ils souhaitent plutôt faire du sport un moyen de développer l'hygiène, de développer la santé et de préparer aussi des travailleurs. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à partir de 1930, donc Staline décide de construire le socialisme dans un seul pays. Alors ça, c'est à partir de 1924. À partir de 1930, il décide de rattraper et dépasser les pays occidentaux. Et en 1934, en fait, cela va également se passer sur les stades, puisqu'il cherche à rattraper et dépasser les pays occidentaux par des records. Et donc, à la fin des années 30, il y a une fièvre du record en URSS parce que c'est les seuls moyens où l'on peut, en fait, s'opposer aux sportifs capitalistes par le chiffre, par la mesure. Et c'est en 1939 que 22 records du monde seraient détenus par les haltérophiles soviétiques, selon la propagande soviétique.
Oui, serait parce qu'on ne peut pas le vérifier en vérité, c'est ça? Oui,
exactement.
D'accord. Paul, toujours est-il que effectivement cette guerre froide se met en place après la Seconde Guerre mondiale, et en tout cas en Europe et en Occident, le front direct est interdit. Du coup, le sport interdit. En tout cas, on n'est pas là pour se battre face à de troupes, de soldats. Donc le sport devient en effet le front de la guerre froide en Europe, très vite, en vérité.
Oui, parce que au travers du sport, on peut finalement faire valoir beaucoup de choses. Faire valoir un système éducatif dans lequel le sport serait présent et donc contribuerait à créer un homme nouveau, en tout cas un homme meilleur peut-être. Au travers du sport, on voit aussi la validité d'un système social et économique, ce qui fait que ça entre évidemment dans la logique de la guerre froide, qui passe soit par des conflits dits périphériques sanglants, guerre de Corée par exemple, soit par une concurrence, donc par des modèles. Alors c'est d'autant plus opérant en Europe occidentale pour l'URSS que l'URSS a des relais. Il y a la FSGT que j'ai citée tout à l'heure,
qui est la Fédération sportive gymnique du travail, qui est marquée très à gauche.
Voilà, qui est liée au Parti communiste très clairement. Mm-hmm. Et puis en Italie, il y a aussi l'UISP, qui est moins puissante, mais qui est l'Union italienne du sport populaire, qui est aussi liée au Parti communiste italien, et là qui porte le fer contre les organisations catholiques et chrétiennes démocrates. Donc il y a évidemment ces relais qui permettent aussi, à travers d'une presse, par exemple, comme Miroir Sprint en France, l'hebdomadaire, de faire valoir eh bien la valeur de ces athlètes soviétiques, la valeur de ces méthodes, et puis aussi le modèle de l'athlète soviétique qui est un athlète amateur, il faut le rappeler, enfin faussement amateur, mais en tout cas présenté comme tel.
Non professionnel, hein, ça veut dire, c'est-à-dire tout pas rémunéré pour travailler
Sylvain le sport. C'est mieux que moi, ils ont en général d'autres, ils ont des emplois plus ou moins fictifs, en tout cas qui leur permettent de s'entraîner pour remporter ces titres.
Sylvain Dufraisse, ces sportifs du Bloc de l'Est, ils vont être amenés à être des acteurs de la mythologie socialiste sur la scène internationale, mais il y a quand même une sorte de paradoxe qui peut venir brouiller, on va dire, les valeurs du sport ouvrier, puisqu'il est question de gagner, d'être performant. Comment est-ce que le Politburo ou le Comité central réussit à justifier cet antagonisme, ces deux paradoxes entre il faut gagner, il faut être victorieux, il faut gagner presque d'un point de vue individuel, alors qu'on est en train de dire que non, en fait, le sport sert à autre chose, normalement, en Union soviétique.
Alors, elle est présente, cette idée de la compétition. Et après, ce qui est intéressant, c'est la manière dont on va changer la représentation du sportif. En disant, en fait, que ce n'est pas des champions professionnalisés dont la morphologie, en fait, est difforme. Non, non, en URSS, ce sera des maîtres, des gens qui vont aller enseigner, en fait, leur activité sportive, qui vont être ouverts à la société, qui vont présenter des modèles de comportement tels que doit être celle du citoyen socialiste soviétique.
Politi, il y a des paradoxes à l'Est, il y en a aussi à l'Ouest, notamment dans les années 60, prenons un exemple très concret, les Américains mettent en avant des sportifs afro-américains, noirs de peau, comme étendard du monde dit libre à l'époque. Or, ce pays-là est totalement gangréné par la ségrégation. Donc, est-ce que c'est la grande hypocrisie de la société américaine de dire à la fois nous sommes le monde libre et chez nous, on peut être noir de peau et ne pas être libre aux États-Unis?
Alors, à la fois, c'est une hypocrisie qui est partagée, puisqu'on pourrait faire référence aux athlètes français à l'époque coloniale, hein, finalement entre dans ce schéma-là. En même temps, ça fait partie aussi d'une évolution. C'est-à-dire que dans les années 50, les athlètes noirs, et notamment les sportifs noirs dans le baseball, par exemple, à l'image de Jackie Robinson, commencent à pouvoir jouer dans les ligues blanches. Donc, ils apparaissent, ils sont encore minoritaires, mais ils obtiennent souvent les titres de meilleurs joueurs. Donc, il y a cette émergence qui commence à voir le jour. Ce sont ces années 60, les années Kennedy, qui sont des années d'évolution, d'amélioration, hein, des droits pour les Noirs aux États-Unis. Et puis, en même temps, une Amérique très ségrégationniste, qui est plutôt celle du Sud. Donc, il y a évidemment cette ambiguïté, hein, et qui va éclater en quelque sorte au cours des années 60, autour notamment de deux personnalités ou trois personnalités. Cassius Clay qui devient Mohamed Ali et qui refuse d'aller combattre au Vietnam, hein, et qui en quelque sorte dénonce cette situation, hein, en montrant finalement que...
Et devient un acteur de la guerre froide par cette décision.
Tout à fait, hein, disant que jamais un Viet Cong finalement ne l'a traité de nègre. Hein,
oui.
Et puis, évidemment, c'est le geste de John Carlos et Tommy Smith sur le podium à Mexico, donc ce point ganté levé, hein, qui finalement lève toute ambiguïté, hein, sur cette instrumentalisation des athlètes noirs par les États-Unis. Et ensuite, finalement, les choses vont quand même évoluer, hein, jusqu'à Carl Lewis.
Évidemment. Sylvain Dufraisse, il y a aussi des tensions internes au Bloc de l'Est. Prenons un exemple très concret, Melbourne, les JO d'été en 1956. Il y a là une demi-finale de water-polo, on rentre dans le concret du sport, mais c'est vraiment intéressant, qui va opposer l'URSS à la Hongrie. À quoi ressemble ce match? Quel est le contexte de ce match, Sylvain? Qu'est-ce que ça raconte du Bloc de l'Est à l'été 56? Enfin, à l'hiver 56 pour nous, parce que c'est la zone sud, évidemment, de l'hémisphère.
Alors, il faut remettre dans le contexte, c'est-à-dire celui de l'insurrection de Budapest fin octobre, début novembre 1956, et aussi dans le contexte qui est celui des compétiteurs. C'est-à-dire que pour aller à Melbourne, quand on vient d'Europe à l'époque, on ne va pas en avion à Melbourne, on y va en bateau. Et les Hongrois et les Soviétiques ont fait le trajet jusqu'à Melbourne ensemble avec ce contexte de l'insurrection de Budapest.
Donc on rappelle rapidement, c'est la répression par les Soviétiques d'une révolution populaire à Budapest en Hongrie.
Hein. Exactement. Et donc ce match de water polo, il a lieu le 6 décembre 1956 et c'est une demi-finale qui oppose l'équipe de water polo hongroise, une équipe extrêmement forte, et les Soviétiques. Et durant le match, donc, ce qui est indiqué, c'est que Ervin Zadar, en fait, aurait insulté les Soviétiques et aurait essayé de les faire sortir de leur gond.
Les provoquer, en réalité.
Les provoquer, exactement. Ce qui s'est passé durant les dernières minutes du match, puisque Prokopov, le waterpoliste
soviétique, oui.
Il lui a donné un coup. Donc Zadar finit avec le visage ensanglanté.
Il faut avoir en tête, Sylvain, que c'est une piscine. Donc, visage ensanglanté, le sang se répand dans la piscine. Et tout d'un coup, ça devient un bain de sang. C'est-à-dire qu'on voit le sang à l'image. C'est,
exactement.
C'est un symbole très fort.
Mais ce qui a surtout marqué, en fait, c'est l'image du joueur de waterpolo, le visage ensanglanté, qui a été reprise. Et il faut savoir que le waterpolo, c'est quand même un sport rugueux, où il peut y avoir des affrontements.
Des coups.
Et le lendemain, en fait, les journaux titraient que c'était un bain de sang. Et donc, là, ça nous donne aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir la place des journalistes dans la construction de ces mythes, puisque c'est le lendemain, en fait, ou les jours après, l'interprétation des journalistes qui va construire ce mythe du match entre l'URSS et la Hongrie.
C'est une construction a posteriori, par les journalistes qui s'emparent évidemment de cette image si forte et si symbolique.
Exactement.
Alors, il n'y a pas non plus que des tensions et des affrontements dans cette guerre froide, il y a aussi toute une mise en place de systèmes diplomatiques. Il y a ce qu'on a appelé, Paul, en 71, la diplomatie du ping-pong, rapprochement États-Unis-Chine. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression de diplomatie du ping-pong, Paul?
Alors, en 1971, il y a une compétition internationale de tennis de table au Japon.
Le 31e championnat du monde.
Voilà. Et l'équipe américaine va s'inviter dans le bus des pongistes chinois qui sont parmi les rares athlètes, finalement, à chinois à concourir à des compétitions internationales, parce que la Chine n'a pas réintégré, la Chine communiste n'a pas intégré encore le CIO ni la FIFA. Et à la suite de cela, ils vont être invités en Chine pour disputer des compétitions, évidemment dans une ferveur orchestrée par la propagande. Et on a souvent vu évidemment cela comme une sorte de préalable au rapprochement sino-soviétique et au voyage de Nixon à Pékin en 1972. Bon, dans les faits, le rapprochement était évidemment plus ancien. C'est, je pense que c'est un bon exemple du prétexte, en fait, qui est souvent le sport. C'est pas forcément le sport qui permet le rapprochement. Mais, comme il y a cette symbolique, finalement, du rapprochement des peuples au travers du sport, de l'aspect des joutes pacifiques, hein, pour reprendre les termes de Coubertin, eh bien, on a vu, dans l'initiative des pongistes américains, finalement, le début du rapprochement sino-américain, alors que, dans les faits, c'est plutôt des intérêts convergents contre l'URSS, évidemment, qui amène les deux puissances à se rapprocher.
Sylvain Dufraisse, pour conclure cette première partie, pour reprendre aussi les mots de Paul Dickey, c'est vrai qu'on voit la guerre froide à travers le prisme du sport. Là, ce soir, ça veut dire forcément un affrontement, des tensions, une lutte. Or, c'est plus complexe que ça, évidemment. C'est que le sport peut être aussi une occasion de rapprochement, on peut aussi transiger. C'est-à-dire que le sport a eu aussi contraint, finalement, les deux blocs à se côtoyer, à se fréquenter, à se parler, à entretenir des relations.
Oui, et je voulais revenir, en fait, sur les Jeux Olympiques d'Helsinki, par exemple, puisque à l'origine, il y avait deux villages séparés. Et ce qui était intéressant, c'est que aux Jeux Olympiques d'Helsinki, les Soviétiques ont mis en scène le rapprochement, leur ouverture. Et il y a par exemple une scène marquante où un sauteur à la perche enserre celui qui a gagné, qui était d'ailleurs un pasteur américain. Et donc, pour les Soviétiques, le sport, c'est un moyen de montrer aussi un visage souriant du pays et pas un bolchevique avec le couteau entre les dents.
Helsinki, c'est en 1952, les JO de 52 évidemment. On va faire une pause musicale avec un nouveau titre du groupe de rock psychédélique La Femme. Alors, dans le jukebox ce soir, voici Jouer Paradigme.
Sur le bord de la route, on m'a laissé.
L'œil du tigre.
À Hambourg cet après-midi, Allemagne fédérale contre la République démocratique allemande. Dans l'histoire de leur football, c'est la première fois que les deux Allemagnes sont face à face.
Philippe Collin.
Un match par conséquent qui promet, car si l'Allemagne de l'Ouest a d'ores et déjà assuré sa qualification pour le prochain tour, les footballeurs de l'Allemagne de l'Est vont essayer de décrocher eux aussi leur billet. Un match qui sera disputé et qui passionne aussi l'homme de la rue.
Sur France Inter.
Entre 1945 et 1991, la guerre entre les deux blocs fut improbable, mais la paix impossible. 50 ans d'une guerre dite froide, qui s'est traduite d'abord dans les conflits armés de la décolonisation, dans diverses opérations de propagande, dans la crise des missiles à Cuba et bien sûr au sein des compétitions sportives. 50 ans de confrontation entre l'Est et l'Ouest dans les stades, à l'aune des idéologies. 50 ans de sport au diapason ou de la détente ou des tensions extrêmes, à l'image des Jeux Olympiques de Moscou en 1980.
4 heures de cérémonie à Moscou pour l'ouverture officielle des 22e Jeux Olympiques. Des Jeux qui n'en sont pas tout à fait. 64 pays sur 145 invités sont absents. Les médailles perdront de leur valeur dans certaines disciplines, en particulier l'athlétisme, la natation, le judo et le demi-fond, disciplines respectivement dominées par les États-Unis, l'Allemagne de l'Ouest, le Japon et le Kenya, grands absents de cette Olympiade. Aujourd'hui, la cérémonie n'était pas la fête des athlètes, mais l'aboutissement de toutes les attitudes politiques des uns et des autres depuis l'invasion de l'Afghanistan.
16h56, début de la cérémonie d'ouverture, après l'arrivée de Léonid Brejnev et l'exécution de l'hymne soviétique, tradition oblige. C'est un char antique, entouré de personnages costumés, qui fait son entrée sur le stade. Alors que les délégations de l'Angola et de l'Afghanistan sont longuement applaudies, la télévision soviétique passe assez rapidement sur les délégations défilant sous le drapeau olympique. 17h18, Léonid Brejnev, de la tribune d'honneur, prononce la phrase traditionnelle « Je déclare les Jeux de la 22e Olympiade ouverts ».
Sylvain Dufraisse, je rappelle que vous êtes historien, spécialiste du sport en Union soviétique. Tout d'abord, ces JO de Moscou en 1980, c'était inédit, c'était la première, ce sera l'unique fois d'ailleurs que les JO auront lieu sur un territoire de l'Est, du bloc de l'Est, enfin du bloc communiste on va dire. Alors pour commencer, est-ce que c'est une victoire pour l'URSS d'avoir obtenu ces JO de 80 à Moscou?
Alors c'est une victoire et c'est aussi un processus de très longue durée puisque les soviétiques ont commencé à réfléchir à l'organisation des Jeux Olympiques dès 1956. Il y avait une délégation, en fait, qui avait accompagné la délégation sportive pour essayer d'analyser comment on organisait une compétition de ce rang-là. Le constat était simple en 1956, c'est que en URSS, il n'y avait pas les infrastructures pour accueillir. Alors ensuite, les Soviétiques ont de nouveau candidaté en 1969 pour les Jeux Olympiques de 76, mais on sait qu'ils ne l'ont pas obtenu puisque ça a été à Montréal. C'est en 74, en fait, qu'ils obtiennent ces Jeux Olympiques de 80. Et en fait, les Soviétiques se sont adaptés aux pratiques du CIO, c'est-à-dire qu'ils ont fait un lobbying assez important. Ils ont montré aussi qu'ils étaient respectables et qu'on pouvait accueillir des compétitions en URSS et surtout que les infrastructures étaient de qualité. Et ça, en fait, c'est en accueillant des grandes compétitions internationales durant les années 70 que les Soviétiques ont pu prouver leur capacité à organiser ces Jeux de 80.
Paul Dicci, ces jeux-là sont boycottés par bon nombre de pays occidentaux suite à l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS en 79. Néanmoins, la France y est, l'Angleterre y est, l'Italie y est, donc ces pays qui appartiennent au monde dit libre, et ils défilent sous le drapeau olympique. Alors pourquoi la France y est et pourquoi défile-t-elle pas sous le drapeau blanc-rouge ?
Alors, la France y est pour diverses raisons. D'abord, en raison des relations particulières entre le pays et l'URSS, telles qu'elles ont été tissées depuis le général de Gaulle, qui appelait l'URSS la Russie soviétique, donc considérait qu'il y avait une continuité avec l'ancienne Russie. Et puis surtout, cette politique, elle est continuée par Valéry Giscard d'Estaing, qui, en mai 1980, va même rencontrer Brejnev à Varsovie, ce qui lui vaut d'ailleurs le titre de petit télégraphiste, attribué par François Mitterrand. Donc pour montrer que le contact n'est pas rompu. D'ailleurs, Brejnev lui dit que les troupes soviétiques partiront bientôt d'Afghanistan. Il y a une autre raison aussi qui est mise en jeu. Alors, la question est discutée. Des personnes comme Simone Veil, Pierre Mazeaud sont pour le boycott. Mais j'avais l'occasion d'échanger avec Gabriel Robin, qui était le directeur des affaires politiques du Quai d'Orsay, qui m'avait dit qu'il y avait une raison importante, c'était que les Jeux Olympiques étaient une tradition française. Et qu'il fallait éviter de l'endommager. C'était un des rares lieux où la langue officielle était notamment le français, et que donc un boycott aurait pu, dans ces conditions très difficiles, parce que en 76 il y a le boycott des Africains, il n'y a plus beaucoup de candidats pour accueillir les Jeux, et donc c'est un moment où on parle même de fin des Jeux Olympiques.
Ça c'est vrai, on ne le dit pas assez Paul, mais c'est une période très difficile pour les JO.
Oui, et les jeux coûtent cher, il y a eu aussi évidemment des attentats, prise d'otages à Munich, etc. Donc il faut préserver aussi cette tradition française.
Sylvain Dufraisse, ces Jeux sont boycottés par les États-Unis, évidemment, donc la chaîne NBC, qui est la grande chaîne américaine, va être solidaire du boycott et ne va pas diffuser les JO aux États-Unis. Alors, c'est un programme qui est très regardé aux États-Unis, les Jeux Olympiques. Comment est-ce qu'on vit ça en URSS, ce boycott ? Comment est-ce que le comité central vit ces JO-là boycottés par une partie du monde dit libre ?
Alors, d'abord, il voit le boycott un peu comme une attaque contre une organisation qui devait être celle de la grandeur du monde socialiste. Ensuite, ce qui va être mis en avant, c'est le fait que ces jeux ont été réussis. Et ça, on a tendance à l'oublier, oui. Parce que même le journaliste de Libération disait que ça avait été des jeux plutôt réussis, où il y avait la reproduction miniature de la société que les Soviétiques haïssent. Je cite exactement. Et c'est intéressant, puisqu'à ce moment-là, Moscou ne ressemble pas à la Moscou telle qu'on l'imagine, un peu grise, etc. C'est vraiment une fête. Les magasins sont complètement achalandés. La ville a été ripollinée. Et les éléments antisociaux, je cite les termes soviétiques, ont été éloignés de Moscou.
Alors, 4 ans plus tard, Paul, ce sera les JO de Los Angeles, aux États-Unis, là, boycotté par l'Union soviétique et les pays frères. Alors là, de l'autre côté, on passe de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est la grande messe du capitalisme. C'est-à-dire que Carl Lewis va triompher avec 4 médailles d'or. Là aussi, c'est une grande démonstration de force dans cette guerre froide. Reagan vient d'être élu, enfin, a été élu en 80. On est quand même au sommet d'une guerre froide du sport, là, Paul Dicci.
Oui, alors, il y a d'abord l'aspect économique qui est important, puisque on est dans ce tournant néolibéral qui est imposé par Margaret Thatcher et Ronald Reagan à l'Ouest. Et ces jeux sont organisés sur une base uniquement privée. Et d'ailleurs, ils font des bénéfices importants, plus de 150 millions de dollars. Les grandes sociétés comme McDonald's y participent, construisent notamment pour McDonald's la piscine. Donc c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est évidemment...
McDo a construit la piscine, c'est ça ?
Oui.
Ah oui, d'accord.
A financé
d'accord.
Parce qu'en fait, les Jeux ont été réalisés à l'économie. On a réutilisé beaucoup d'équipements, hein, comme le stade olympique, le Coliséeum. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas coûté très cher. L'autre aspect, c'est évidemment un nationalisme américain au sommet. Hein, c'est l'America is back.
Absolument.
De Ronald Reagan. Et je peux en témoigner, puisque j'ai regardé ces Jeux, j'avais 20 ans à l'époque, devant la télévision. Et ce qu'on disait en France, c'est qu'on ne voyait que les athlètes américains. Il y avait une réalisation qui privilégiait uniquement ces athlètes, qui évidemment, à la fin de chaque victoire, se pavanait avec le drapeau américain.
Et l'hymne, évidemment.
Et c'est vrai que c'est aussi un triomphe. Hein. De mémoire, je crois que les athlètes américains ont remporté plus de 170 médailles. Et la deuxième délégation, ce sont les Roumains, puisque les Roumains sont venus. Sont les seuls, hein, Ceausescu a montré son indépendance, entre guillemets, et je crois que les Roumains ont une cinquantaine de médailles. Donc c'est une victoire absolument
écrasante.
Et en même temps qui est célébrée par les médias américains sans aucun partage avec les autres.
Sylvain Dufresne, l'année suivante, 1985, va sortir au cinéma Rocky IV. C'est important parce que le challenger de Rocky s'appelle Ivan Drago, il est soviétique, et là on bascule dans une autre dimension de la guerre froide et du sport, c'est celle de l'image. Celle que renvoie Ivan Drago, c'est celle de la machine soviétique, presque inhumaine, avec un regard très dur. C'est une énorme caricature du champion soviétique du point de vue américain.
Mais comme Rocky est aussi la caricature du champion américain. Alors ce qui est intéressant en fait dans l'opposition entre ces deux boxeurs, c'est l'opposition de modèles. Et de modèles tels qu'on souhaite les présenter, tels qu'on souhaite les caractériser. Alors bien évidemment, Drago c'est une machine, il prend des stéroïdes, il ne réfléchit pas, c'est un athlète bodybuilder.
Il fait peur.
Il est aussi accompagné d'une femme androgyne et du représentant du KGB pas loin. Donc en fait, ce film, il est important parce qu'il participe à créer notre image du sportif soviétique et à rendre cette image dominante, en fait, de ce combo entre les femmes androgynes, les stéroïdes, le fait que ce soit des machines de guerre et dans un qui ne réfléchissent pas, et dans un dernier temps, le fait que le KGB soit partout autour.
Puisqu'on parle de cinéma, de guerre froide et de sport, Sylvain Dufresne, il y a un autre film que je ne connais pas qui s'appelle Sport, Sport, Sport en français de L.M. Klimov, qui est un grand cinéaste soviétique qui a fait Requiem pour un massacre en 1985, qui est un des grands films, à mon avis, du XXe siècle. Quel est ce film? Qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que c'est un film de propagande soviétique? Et je ne connais pas du tout ce film de L.M. Klimov.
Alors, ce film, il est étonnant puisqu'il apporte un discours discordant. C'est un film de 70. On imagine, en fait, qu'en URSS, tout sur le sport est très organisé. On pense d'une seule manière le sport. Et en fait, ce film, qui est un film qui est composé d'images d'archives et de scènes jouées. Alors ça raconte l'histoire d'un masseur, d'un papy masseur qui s'appelle Volodia et qui raconte, ben, comme on fait dans cette émission, l'histoire du sport mondial. Et donc il raconte à ses jeunes sportifs, voilà, les grandes étapes à l'aide d'images d'archives, mais surtout il présente aussi les dérives du sport soviétique. Il y a par exemple des images intéressantes sur les écoles de sport pour enfants, où en fait dans ce film on montre un contrôle de tous les instants des enfants en fait qui doivent supporter des charges d'entraînement très importantes très jeunes. Et donc moi ce film je le trouve intéressant parce qu'il apporte un discours discordant au sein même de l'Union soviétique.
Ça se trouve sur YouTube, c'est assez simple. Hein. Ouais. L.M. Klimov, Sport, Sport, Sport.
Et Volodia,
c'est incroyable
ces images. Le Volodia, il essaie de concevoir le sport du futur, un sport en fait sans vainqueurs, sans perdants, et où aussi les agents qui sont cachés du sport, comme lui, masseur et connaisseur en fait de toute cette histoire.
Paul Luigi, j'en reviens à votre casquette principale d'historien, qui est celle du football. Vous êtes un des meilleurs spécialistes de l'histoire du football en France. Quelle est la place de ce sport mondial dans cette guerre froide? Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots du football dans la guerre froide?
Alors, en apparence, c'est marginal puisque États-Unis et URSS ne se rencontrent pas sur ce plan-là.
Ils ne sont pas très forts au football pour les Américains, en tout cas.
Et même les Soviétiques, finalement, ont des résultats moyens. Mais en revanche, ça joue un rôle important. Alors, à la fois comme vitrine pour certaines démocraties populaires, la Hongrie de Rákosi en particulier, qui est la grande Hongrie qui masque un régime sanglant. C'est un sport que la guerre froide freine en Asie, en raison de conflits qui sont liés à la guerre froide. C'est le conflit entre Israël et les pays arabes qui bloque l'organisation d'un football asiatique. C'est aussi le fait que la Chine, jusqu'à la fin des années 70, ne veut pas regagner la FIFA parce que Taïwan est là et prétend être le représentant de la République de Chine. Donc ça a des effets qui sont extrêmement importants. Et en même temps, le football, c'est aussi un espace justement de circulation et de relative paix dans une Europe qui va de l'Atlantique à l'Oural, avec l'UEFA, les Coupes d'Europe, et donc des échanges.
C'est vrai qu'on voyage, on voyage.
On voyage beaucoup.
Dans les Coupes d'Europe, on se déplace à l'Est et à l'Ouest.
Tout à fait. Même si parfois les voyages à l'Est sont un peu compliqués, parce que les arbitres sont parfois suggestionnés, les conditions ne sont pas les mêmes qu'à l'Ouest, mais il y a ces voyages, et puis il y a des circulations de joueurs aussi.
Vous dites aussi, Paul, que c'est une manière d'observer les migrations de population, notamment pas mal de joueurs, quelques joueurs en tout cas, pas mal, je ne sais pas, mais qui viennent de l'Est, viennent jouer à l'Ouest. Il y a le cas de Stéphane Kovacs, par exemple. Qui est Stéphane Kovacs?
Alors, Stéphane Kovacs, c'est un entraîneur roumain qui a joué en Belgique avant la Seconde Guerre mondiale et qui va être recruté d'abord par l'Ajax d'Amsterdam pour remplacer Rinus Michels.
En tant qu'entraîneur.
Oui, et il y parvient parfaitement puisqu'il remporte 2 Coupes d'Europe et 2 championnats néerlandais. Et ensuite, comme il est polyglotte, il est un Français assez amusant, il invente des mots comme sériosité, il est... recruté par la Fédération Française de Football pour essayer de redresser l'équipe de France.
Et oui.
En 74-75, il va obtenir des résultats moyens.
2 ans, il va être le sélectionneur de l'équipe de France.
Alors, il va être critiqué, notamment par la presse sportive d'obédience plutôt communiste. Mais il aura un mérite, ou plusieurs mérites. Le mérite, c'est notamment d'avoir eu pour adjoint Michel Hidalgo, qui va lancer l'équipe de France.
Évidemment. Et que dit Ceausescu de cette présence de Stéphane Kovacs en Europe de l'Ouest?
Alors, c'est une chose, à mon avis, qu'il faut développer. On connaît la version officielle de l'histoire au travers du livre de Kovacs, qui s'appelle Football Total. Visiblement, il y a quand même des négociations au niveau diplomatique.
Et oui, on imagine.
Et les Roumains, justement, veulent freiner la volonté de Kovacs de rester un peu plus longtemps. C'est une sorte de monnaie d'échange. À un moment où les relations franco-roumaines sont rendues difficiles par le cas d'une église orthodoxe roumaine occupée par des dissidents à Paris.
Sylvain Dufresne, j'ai aussi observé dans vos travaux une chose que j'ignorais, que je trouve passionnante. C'est que dans les délégations de sportifs soviétiques qui se rendaient à l'Ouest, il y avait une dimension importante et symbolique où il fallait faire vivre la mère patrie en territoire ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le régime avait pensé à ça, qu'en envoyant des sportifs à l'Ouest, il fallait qu'ils soient aussi missionnés d'un point de vue de la mythologie socialiste.
Alors, il faut aussi replacer dans le contexte, c'est-à-dire où les transports sont plus longs. Et aussi, quand on part à l'autre bout du monde, ben on y reste un peu plus longtemps.
Et oui, on y reste des semaines parfois.
On y reste des semaines. Et donc l'enjeu, c'est de rappeler aux sportifs l'attachement à la mère patrie ou l'attachement au mouvement socialiste international. Alors, par exemple, quand les sportifs soviétiques vont en Finlande, ils vont visiter la maison dans laquelle Staline et Lénine s'étaient rencontrés.
Pour la première fois.
Pour la première fois. En France, ils viennent voir l'appartement rue Marie-Rose de Lénine.
Quand ils vont à Londres, les sportifs soviétiques, ils vont sur la tombe de Karl Marx.
Exactement. Et donc, ils vont en fait faire tout un parcours mémoriel en plus des compétitions et en plus de leur entraînement.
Et donc ça, c'est photographié, c'est mis en reportage et on envoie ça aussi à la mère patrie pour bien faire comprendre au peuple qu'il faut à la fois s'éduquer dans la vie et aussi pour montrer que ceux qui vont à l'étranger, entre guillemets, à l'Ouest porter les couleurs du sport soviétique sont aussi là pour porter les valeurs du marxisme-léninisme, en vérité.
Oui, et puis c'est pour montrer aussi que les sportifs, quand ils partent à l'étranger, ne sont pas seulement attirés par les centres commerciaux, les magasins, mais aussi par la mémoire du mouvement communiste.
Et par la pensée, évidemment. Ce mois-ci, nous fêtons les 30 ans de la réunification allemande. Le mur de Berlin est tombé il y a 30 ans. La guerre froide n'est plus dans la sphère mondiale. Néanmoins, question pour tous les deux, est-ce qu'il y a des vestiges de cette guerre froide du sport? Est-ce qu'on retrouve aujourd'hui des stigmates de cette guerre froide du sport, Paul Dicci?
Alors, je dirais, dans l'affrontement des puissances émergentes, sur la scène olympique notamment, il est clair que la volonté chinoise de s'imposer dans le sport, que ce soit d'ailleurs dans l'olympisme, que dans le football.
J'ai lu, je crois que c'est dans votre papier, qu'ils veulent organiser une Coupe du Monde en 2030 et la gagner d'ici 2050.
Tout à fait.
C'est deux objectifs précis pour les Chinois.
Ce qui semble un peu illusoire, parce que quand on va en Chine, on ne voit pas beaucoup de gamins jouer au football.
Oui, oui.
Et d'ailleurs, les meilleurs résultats sont dans les sports individuels, pas dans les sports collectifs. Mais au travers de cela, il y a la volonté aussi de présenter la valeur du modèle chinois, qui est désormais un modèle plutôt néo-confucianiste que communiste. Mais on reste finalement dans cette logique d'un sport qui porterait les valeurs, qui porterait l'excellence d'une société.
Sylvain Dufresne, un mot sur les vestiges de cette guerre froide du muscle?
Alors par exemple, on l'a vu dans la stratégie qui a été développée par la Russie d'attirer des grandes compétitions internationales et de se servir de ces grandes compétitions internationales pour donner une image, là encore, plus souriante. et on voit que ça n'a pas forcément bien fonctionné.
Oui, absolument. En termes d'image, c'est un peu foiré, on va dire quand même. En tout cas, merci à vous deux d'être venus ce soir. Je précise que pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, qu'ils peuvent se procurer le numéro 277 de la revue Guerre mondiale et conflits contemporains, consacré au sport dans la guerre froide, numéro coordonné par Paul Dicci avec la participation de Sylvain Dufraisse, revue passionnante disponible aux presses universitaires de France. Merci à vous deux.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Dans le ciel européen, des nuages passent. À Berlin, les Russes ont décidé de contrôler les communications alliées et ont établi des postes à tous les accès de la zone russe qui entoure Berlin. De ce fait, Berlin se trouve en état de blocus et les trains interzones ne fonctionnent plus. C'est par air que les alliés ont commencé à réorganiser leurs communications et leur ravitaillement. Épreuve de force, bataille à coups d'épingle, nuage.
L'œil du tigre, Philippe Collin, sur France Inter.
It seems that I won't be warned. And certainly I saw a sign. I raised like a woman scorned. But something about you got me gone. You're pulling me back and I'm going under. A little peace, a little love, a little this, is that enough?
Can't Fight, chanson signée Léane La Havas. On continue en musique avec La Victoire en chantant, le rendez-vous de Pierre-Étienne Minonzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année. Ce soir, on cause d'un footballeur au top 50. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors, de quel artiste souhaitez-vous nous parler ce soir ?
Alors, avant de vous répondre, m'autorisez-vous à m'adresser directement à vos auditeurs ?
Oui, oui, bien sûr, si vous voulez.
Chers auditeurs, en ces temps troublés, c'est par souci de transparence, mais aussi en toute conscience des responsabilités qui m'incombent, que je m'adresse à vous ce soir et que je vous présente de plates excuses pour ce qui va suivre.
De quoi vous vous excusez ?
Ben, de ça. Voilà Philippe, on vient d'entendre « Je te survivrai », un tube signé en 1989 par Jean-Pierre François, dont le refrain constitue ce qu'on appelle une « scie », c'est-à-dire un air qui, dès la première écoute, vous obsède et ne vous quitte plus, même s'il ne vous plaît pas. D'ailleurs, dans les heures à venir, les auditeurs de l'Œil du Tigre vont tous commencer à chantonner « Je te survivrai d'un amour vivant, je te survivrai dans des yeux d'enfant. »
Pourquoi vous nous infligez ça, Pierre-Étienne ?
En fait, je me suis rendu compte, en plongeant dans les archives de l'équipe, qu'on a fêté hier le 33e anniversaire du premier match de championnat de France disputé par Jean-Pierre François avec l'AS Saint-Étienne. Voilà, c'était une victoire à domicile face à Cannes, 1-0, le 17 octobre 1987.
Ça, c'est dit.
Car, vous l'avez compris, avant de devenir un chanteur à succès, Jean-Pierre François a été un joueur de foot professionnel chez les Verts au poste d'attaquant.
Un attaquant de bon niveau.
Bon, lors de la saison 1987-1988, il a participé à seulement 6 matchs. Et a priori, ses performances devaient être plutôt décevantes car il a pris sa retraite sportive dans la foulée, à l'âge de 23 ans.
Eh ben.
Mais dès cette époque, Jean-Pierre François marquait les esprits grâce à son physique avantageux, avec sa crinière blonde et son regard de braise. Écoutons comment, quelques mois plus tard, Michel Drucker l'a présenté dans son émission Champs-Élysées.
Il a un physique exceptionnel. Je ne sais pas si le football a perdu une star, c'était peut-être trop tôt pour le savoir, mais je crois que la chanson a gagné quelqu'un qui a des qualités indéniables. Survivrai, Jean-Pierre François sur les FM, vous entendez que ça ? Jean-Pierre François.
Là, j'aurais bien voulu qu'on écoute le premier couplet.
Non, 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 ça ira. Expliquez-nous plutôt, Pierre-Étienne, comment Jean-Pierre François est passé soudainement de footballeur retraité à vedette du top 50.
Alors, une légende persistante prétend que Didier Barbelivien, en apercevant Jean-Pierre François dans une discothèque, aurait confié à son complice Félix Gray : tu vois ce mec ? Je vais lui écrire un tube. Voilà. Ce tube, ça sera « Je te survivrai », un 45 tours qui s'est écoulé à plus de 500 000 exemplaires durant l'été 89. Il faut dire que le clip qui l'accompagnait n'est pas passé inaperçu.
Et à quoi ressemble ce clip ?
Alors, on y voit Jean-Pierre François, vêtu d'une veste en jean, courir au ralenti sur une plage avec une jolie jeune fille, vêtue d'une veste en jean. Alors, le résultat est un peu kitsch, ce qui explique pourquoi Les Nuls avaient rapidement proposé une parodie de ce morceau avec au micro Dominique Farrugia, coiffé d'une perruque blonde.
Dans les arrêts au port et au rayon boucherie, promotion sur le port, des prix, dans la fièvre et la mort, dans Sylvestre et Titi, vous me subirez.
Ah là là, vous me subirez, génie des nuls. Mais est-ce que Jean-Pierre François a survécu au succès de Je te survivrai ?
Alors, pas vraiment, malheureusement. Oui. Il a sorti d'autres chansons, mais très vite, il a mal supporté la célébrité et il a cherché à se faire oublier. C'est toujours le cas aujourd'hui. L'an dernier, une reporter de l'équipe, Anouk Korge, est partie sur les traces de Jean-Pierre François dans le Var, où il réside. Ma collègue a rencontré sa compagne, Sandrine, la patronne du snack bar Chez les filles, à Ramatuelle. Mm-hmm. Celle-ci lui a dit que son homme ne souhaitait pas rencontrer de journaliste.
C'est dommage.
Oui, et d'ailleurs, si vous me le permettez, après m'être adressé aux Français, j'aimerais maintenant m'adresser à Jean-Pierre François.
Allez-y, on vous écoute.
Jean-Pierre, si tu m'écoutes, sache qu'à l'équipe, on rêve de faire une interview avec toi, où tu nous parlerais de Saint-Étienne, du mythique Robert Herbin, qui était ton coach à l'époque, de Michel Drucker, de Didier Barbelivien et de « Je te survivrai ». Une chanson dont je me suis peut-être un peu moqué aujourd'hui, d'accord, mais qu'au fond de moi, j'aime beaucoup. Comme j'en suis sûr, la plupart des auditeurs de France Inter.
Ah là là, Jean-Pierre François, message laissé, Pierre-Étienne. Et vous savez quoi, s'il le veut, Jean-Pierre François vient à ce micro quand il veut et nous lui consacrerons une émission tout entière. À la semaine prochaine, Pierre-Étienne.
Salut et bonne soirée.
Salut. Et voilà, cette huitième émission de notre saison 6 a été mise en onde ce soir par H2M Henri, Marc Mutel, bien sûr. Merci Marco. Assisté ce soir à la technique de Michel Bézikian. Merci à lui. Merci à toute l'équipe de l'œil du tigre, Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi. Merci à Thierry Dupin pour la programmation des Scuds et Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur Twitter avec le compte L'œil du tigre et sur franceinter.fr bien sûr pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine bien entendu avec l'architecture et l'histoire des grands stades mythiques. Quelle mémoire et quels souvenirs véhicule-t-il ? Comment les stades sont inscrits dans l'espace urbain et que raconte-t-il du monde d'aujourd'hui ? Rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.